Soirée pour entrer, pas que la soirée, mais enfin, on va entrer dans le livre de Job. Et non seulement je vous propose, je vous encourage, mais je vous exhorte à plonger dans ce livre, à le lire. C'est pas facile, mais c'est une aventure et c'est une expérience qui vaut la peine de faire. Voilà. En sachant que c'est difficile, en sachant qu'il y a des endroits où vous ne comprendrez rien, mais peu importe. Il faut se laisser prendre aussi par la poésie, parce qu'il y a une poésie magnifique de la vie et de la vie joyeuse et de la vie souffrante. Donc se laisser prendre par la poésie, avancer, avoir l'impression qu'on piétine, mais ne vous inquiétez pas, j'ai eu l'impression de plus que piétiner. Et finalement, c'est peut-être ça qui est bon et qui va vous permettre d'apercevoir des choses. Voilà. Je crois que il y a un grand bénéfice à lire ce livre. Et puis aussi, bien sûr, à le travailler. Alors, pour vous le présenter, oui. Alors, comment je fais si vous ne m'entendez pas bien? Et comme ça, c'est mieux? Ah ben voilà, merci. Alors, pour le présenter, vous avez entre les mains plus que ce que je vais dire, donc presque un verbatim de la conférence, avec un peu plus, mais vous suivez surtout ce qui est le PowerPoint, parce que je ne vais pas suivre exactement, moi, ce qui est dans le texte, et surtout, je vais... Ah là là, abréger. Alors, le livre de Job, un livre de sagesse... J'ai écrit le débat, bon, c'est connu, de l'homme souffrant avec Dieu. Aucune référence à un quelconque fait historique. Alors, le micro est trop loin. Alors, mais on ne peut pas l'approcher plus. Vous pouvez l'approcher? Allez-y. Voilà. Bon, est-ce que ça va mieux? Le jour et la nuit. Ah, c'est bien. Bon, alors, aucune référence à un fait historique et... aucune référence aussi, en tout cas explicite, à l'histoire de l'alliance de Dieu avec Israël. C'est donc un ouvrage de sagesse, et comme les ouvrages de sagesse, et il y a des parallèles dans les civilisations environnantes, il traite évidemment des grands questionnements de l'existence humaine. C'est le cas d'un juste, de quelqu'un qui se veut juste, accablé de malheur, et il aborde donc, il y a une méditation sur le mystère du mal, sur la fragilité de l'être humain et sur le silence et la souveraine liberté de Dieu. Mais je crois qu'il faut dire tout de suite que le livre de Job n'est pas une méditation de type philosophique sur la souffrance ou sur le mal. C'est beaucoup plus un drame. C'est un peu comme une pièce de théâtre, le livre de Job. Il y a quelque chose qui se noue et qui se joue, et c'est le drame de la foi, c'est-à-dire d'une relation blessée. Et c'est pour ça que c'est tout en dialogue, relation blessée de l'homme avec Dieu. Donc c'est vraiment un drame qui met en question la foi et essentiellement l'image de Dieu. L'image de ce Dieu, de sa relation aux êtres humains, à travers un questionnement sur sa justice, Dieu est-il juste, sur sa bonté, Dieu est-il bon, Dieu est-il compréhensible, un questionnement sans aucune complaisance, qui se veut lucide, il y a une lucidité terrible dans le livre de Job, et ce questionnement devient et est en fait le signe d'une foi indéracinable. Et donc, il est soutenu par cette foi, et c'est ça au fond qui fait le nœud du livre de Job. Alors, commençons par l'extérieur du livre, un mot de son auteur, comme on ne le connaît pas, ça ira vite, et surtout de la structure du livre. Un mot aussi du personnage de Job. Alors, le personnage de Job, il est connu, j'ai mis, dès le VIe siècle, peut-être certainement même avant. Dans la Bible, on n'a à peu près aucune attestation que le livre, et une attestation dans le livre d'Ézéchiel. Donc, Ézéchiel, c'est la première moitié du VIe siècle, c'est le début du VIe siècle, à Jérusalem et puis en exil. Et Ézéchiel parle au chapitre 14 de trois justes, qui visiblement sont des justes célèbres dans la tradition orale, Noé, Daniel et Job. C'est un peu surprenant, parce que nous, on n'aurait pas choisi comme ça, les trois justes, Noé, Daniel et Job. Mais on voit que ça peuplait l'imaginaire des Israélites à ce tournant du VIe siècle, juste avant l'exil. Voilà. Alors, l'étymologie du nom de Job, elle est incertaine, donc je ne m'insiste pas, on dit que c'est peut-être celui qui est haï, mais ce n'est pas sûr qu'on ne reprojette pas le livre sur l'étymologie. Le lieu d'où il vient, alors c'est intéressant, même si c'est aussi incertain, parce que le pays d'Ous, personne ne sait où il est. Alors voilà. Donc il y a toutes les propositions. Une proposition qui serait satisfaisante, c'est au sud-est de la Palestine, en Édom, parce qu'il y a là des traditions nombreuses autour du personnage, la légende de Job. D'autres disent au contraire au nord-est, parce que on est près des grands royaumes des empires mésopotamiens, où les livres de sagesse aussi sont nombreux, parlant d'un juste, et avec l'histoire du juste qui, malheureux, se plaint devant Dieu ou les dieux. Bon, peu importe à la limite. La seule chose qui est importante et qui finalement découle de cela, c'est que Job n'est pas un Israélite. D'abord, il est présenté comme quelqu'un qui est d'ailleurs. Et finalement, ça lui permet d'être un peu universel. Tout être humain frappé par un malheur brutal et injuste, et tout être humain qui alors s'adresse à son Dieu. Et le premier nom de Dieu, j'y reviendrai dans le livre de Job, mais le premier nom auquel Job sans arrêt s'adresse, c'est El, Eloah, qui est en fait, bien sûr, un des noms du Dieu d'Israël, mais qui est quand même le Dieu du ciel, présent dans le panthéon des civilisations environnantes. Voilà, donc c'est un Dieu assez général, si vous voulez. Cependant, et ça je veux le dire tout de suite et c'est important, le conte dont on va parler et qui, vous le savez, englobe le livre de Job, de même que les réponses de Dieu, parce qu'il y en a, à partir du chapitre 38 et le dialogue qui va s'instaurer entre Dieu et Job, à ce moment-là, montre qu'il s'agit bien du Seigneur d'Israël, c'est-à-dire d'Adonai, le Dieu dont on ne prononce pas le nom. Donc vous voyez, il y a le conte et les réponses de Dieu où on est vraiment dans le lien avec un Dieu au fond, qui est le Dieu du peuple et un Dieu personnel. Et puis le dialogue qui lui, les dialogues qui s'adressent davantage à un Dieu plus largement, divinité en général. Je crois que le débat de Job, c'est quand même la foi dans le Dieu qui est le Dieu d'Israël. On va le voir. Alors, un mot de la structure du livre, parce que c'est pas facile de s'y repérer, d'autant qu'on a, je le redirai, on a parfois l'impression que c'est répétitif à l'infini. Alors, on se repère quand même parce que le livre est encadré, je vais vous montrer un schéma. Il y a un autre schéma dans le papier, mais celui-là est peut-être plus clair. Le livre est encadré par un conte avec un prologue, donc ce qui est en vert, les chapitres 1 et 2, et un épilogue, quelques versets du chapitre 42. Entre les deux, on a inséré à un moment donné, probablement au retour d'exil, fin du VIe siècle, peut-être début du Ve, un auteur, l'auteur finalement massif du livre de Job, un très grand poète, a inséré une série de dialogues. Ça commence par le grand monologue de Job au chapitre 3, puis on a les dialogues, discours-dialogues de Job avec les trois amis, je vais y revenir, qui forment l'essentiel du livre, hein, 4 à 27, c'est un gros morceau. À nouveau, je ne m'intéresse qu'à ce qui est en bleu, hein, ce qui est le cœur du livre. À nouveau, un grand monologue de Job en 29-31, puis la manifestation de Dieu qui parle à partir du chapitre 38 et dialogue avec Job jusqu'en 42. Ça va ? Voilà. Il écarte les deux morceaux du conte, il fourre tout ça au milieu. Plus tard, et probablement en deux temps différents, alors on dit fin du 5e et fin du 4e siècle, bon, c'est beaucoup plus tardif, on a deux insertions dans ces blocs. La plus ancienne des deux, même si elle est bien après, hein, c'est le discours d'Élihu, chapitre 32 à 37, un gros bloc qui est le discours finalement d'un quatrième ami de Job, plus jeune, et qui est un discours qui va, au fond, durcir ce qui a été dit jusque-là dans le sens de la transcendance de Dieu, l'impossibilité pour l'homme de le connaître et de rien y comprendre, et la foi quand même en sa providence. Ça, c'est la première insertion. Deuxième insertion, un peu avant dans le livre, le discours de la sagesse, ou un discours de la sagesse qui prend la parole à une hypostase au chapitre 28, qui veut donner une clé, une réponse finalement à la plainte de Job et une clé du livre, et qui en fait n'est pas, à mon avis, la véritable clé. On voit bien qu'il y a un essai là, parce qu'il y a des tas d'essais pour résoudre le problème de cette souffrance injuste. Alors ce chapitre 28, c'est un grand poème qui explique tranquillement que de toute façon, l'homme ne connaît pas les chemins de la sagesse. Seul Dieu les connaît parfaitement. Il n'y a pas de sagesse sur la terre des vivants, passez votre chemin. Voilà. Ce n'est pas très rassurant. Alors, une fois ça mis en place, je m'intéresse davantage au bloc des discours, des dialogues comme vous voulez, chapitre 4 à 27. Ça va ? Les échanges entre Job et ses trois amis, qui occupent donc ce gros bloc dans le livre, par trois fois les amis de Job, Eliphaz, Bildad et Sophar, vous deviendrez tout à fait familiers de ces gens-là, prennent la parole, toujours dans le même ordre. Donc par trois fois, chacun, vous comptez trois fois trois, neuf. Et chaque fois, Job leur répond. Donc neuf et neuf, 18. Voilà. Ou bien trois fois six, 18, comme vous voulez. Chacune de leurs interventions reçoit une réponse, ça donne donc un cycle, trois cycles de discours, trois cycles de six discours, 4 à 14, 15, 21, 22, 27, avec les amis qui répètent le même argumentaire qu'on va voir. J'ai mis jusqu'à la nausée parce que des fois on n'en peut plus de les entendre répéter la même chose. Ceci dit, Job aussi se répète sans arrêt. Alors cette impression de répétition, moi je l'ai même eue en travaillant, en faisant un premier jet de la conférence, puis un second, j'y revenais chaque fois, et chaque fois je me disais, c'est pas possible, je tourne en rond. Qu'est-ce que je fais là, à patauger ? Ça n'avance pas, ce truc, c'est pas bon, ça tourne en rond. Jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'au fond, j'étais forcée de faire ça, parce que le livre donne cette impression qu'on tourne en rond et qu'il faut. Il faut patauger longtemps. Il faut traverser, peut-être. Alors traverser, c'est plus sympathique, parce qu'on va d'un bout à un autre, et on va quand même le faire. Mais dans la traversée, on se perd, il y a des sables mouvants, il y a des méandres. Eh bien, il faut accepter ça, parce que c'est de ça que, au fond, on va se nourrir, et c'est là qu'on va découvrir qu'il y a peut-être des chemins d'ouverture possibles. Voilà. D'une certaine façon, je me justifie d'avance. Absolument. Bon, alors, maintenant, on entre dans le livre, avec quand même un mot du prologue, et donc du conte, j'en redirai un petit mot à la fin. Vous le savez, donc c'est un conte qui est une espèce de légende populaire, mais qui a sa richesse et sa saveur. Présente Job comme un homme riche, heureux, très heureux, et très juste, et tellement juste qu'il va même prévenir les défaillances de ses enfants en offrant encore plus de sacrifices à Dieu le matin, comme ça il est sûr que si ses enfants font des bêtises dans la journée, c'est couvert d'avance. Un petit peu tatillon, le Job est scrupuleux. Alors, dans ce début, on pose ce personnage de Job et le texte va faire deux allers-retours entre le ciel et la terre. Parce qu'on vous présente aussi la cour céleste, la cour de Dieu. Il y a beaucoup de textes bibliques qui présentent la cour céleste. Et à la cour céleste, un esprit malfaisant qui est par là, qui vient solliciter de Dieu l'autorisation d'aller persécuter Job. Mets-le donc à l'épreuve. Tu dis qu'il est parfait, on va voir. Et donc, par deux fois, le Seigneur consent à ce que le Satan, cet esprit mauvais, mette Job à l'épreuve, et donc on va avoir la succession, demande du Satan au Seigneur, épreuve de Job et réaction et réponse de Job. Vous avez ça deux fois, de 1 à 6 à 1, 22, voyez, et puis ensuite de 2, 1 à 2, 10, voilà, un peu plus court. La première fois, le Satan s'attache aux biens extérieurs, si on peut dire, de Job, ses richesses d'abord, mais ensuite ses serviteurs et ses servantes, et puis ses filles et ses fils, tout ça disparaît. La deuxième fois, le Satan s'attaque à l'intégrité physique de Job, puisqu'il est malade, comme lépreux, en tout cas détruit dans sa personne même, et dans ce qui fait son bonheur de vivre. Bon. Qui c'est ce Satan ? Alors, méfiez-vous. Ce Satan, ce n'est pas celui dont nous avons pris l'habitude de penser qu'il est l'ennemi numéro un qui nous guette. C'est pas du tout la bête de l'Apocalypse, la bête monstrueuse de l'Apocalypse. Ce Satan, c'est finalement un personnage assez phallo. Dans la Bible, on trouve des esprits mauvais qui viennent tourmenter les hommes et dont il est dit parfois qu'ils sont envoyés par le Seigneur. Ainsi pour le roi Saül, qui à un moment donné de sa vie bascule parce qu'un esprit mauvais vient le tourmenter, le rend fou et il se met à détester David et il veut le détruire. Alors les livres de Samuel disent que l'esprit mauvais est envoyé par le Seigneur, les livres des Chroniques évitent de dire que c'est envoyé par le Seigneur. Voilà. Mais ce n'est pas le mot Satan. Le mot Satan, il est très rare, je crois qu'il apparaît 5 fois. Et dans 2 cas, il désigne des adversaires humains, voilà, des ennemis qui sont un peu traîtres, un peu délateurs, un peu fourbes, voilà, et dont il faut se défaire. Et puis, en 3 cas, et 3 cas seulement, ce qui fait quand même pas beaucoup pour la Bible, dans des textes un peu tardifs, donc ce début du livre de Job, le livre du prophète Zacharie, chapitre 3, verset 1, le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques au chapitre 21, verset 1, on voit que ce Satan, eh bien, l'accusateur, le calomniateur qui vient de la cour céleste, qui vient de l'entourage de Dieu. Mais qu'au fond, ce personnage n'a pas grande puissance. Il lui faut l'autorisation de Dieu pour venir tourmenter les pauvres hommes sur la terre, donc en particulier Job ici. Dieu ne lui donne, ne consent finalement à le laisser aller que parce qu'il fait confiance à Job. C'est parce qu'il a une immense confiance en Job que Dieu dit au Satan, bon, si ça t'amuse, va essayer. Donc ça, c'est très important, il faut tenir ça. Et il faut tenir aussi que Job, lui, ne va jamais répondre à ce Satan. Le seul partenaire auquel l'homme, et donc Job, puisse s'adresser, le seul à qui on puisse parler, c'est Dieu. Le Satan, il est transparent. Ça va ? Ça, c'est important de garder ça en tête. On ne peut s'adresser qu'à Dieu, et à un Dieu, au fond, qui fait confiance à Job jusqu'au bout. Alors, il va y avoir 2 réponses de Job à ces souffrances que Dieu permet et que le Satan vient lui infliger. Et j'ai écrit, les réponses de Job sont des réponses du soumis, entre guillemets, en pensant au fond au sens du mot musulman. C'est le soumis. Et Job est un personnage révéré par l'islam. Révéré par l'islam, comme celui justement qui accepte, sans se révolter, ce que Dieu lui envoie. Et c'est exactement la position de Job qui ne met pas en cause la justice de Dieu, qui accepte la liberté de Dieu, sa transcendance absolue. « Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Et le conteur ajoute, « En tout cela, Job ne pécha pas, il n'ajouta rien d'indigne à Dieu. » Alors évidemment, un texte qui fait écho au texte de la Genèse 2 et 3, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Job, ici, ne fait pas preuve d'un stoïcisme hautain qui mépriserait à l'avenir, la divinité et le destin. Il fait preuve, au fond, de ce que la piété juive puis chrétienne la plus respectable a longtemps tenu comme ce qu'il fallait faire, accepter et continuer à bénir. Moi, j'ai retrouvé dans les papier de la famille, des petites cartes annonçant la mort d'un jeune, etc., avec la phrase de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur a béni. Ça nous révulse, mais c'est infiniment respectable et magnifique. Et l'islam met l'accent là-dessus. Job va un petit peu plus loin pour expliquer cela dans la 2e réponse. Et là, il n'a pas tort. Nous acceptons le bonheur comme don de Dieu. Pourquoi n'accepterions-nous pas le malheur aussi ? En même temps, vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui n'est pas supportable, quelque part inadmissible, pour la raison. Encore que la raison humaine, elle a vite fait de se débarrasser d'un Dieu comme ça. Il suffit de dire que je n'y crois pas, il n'existe pas et c'est fini. Mais c'est inadmissible aussi pour la foi. Et c'est ça le drame de Job. C'est qu'au fond, cette réponse admirable a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose... Voilà, parce qu'on finit par se demander, mais au fond, de quel Dieu s'agit-il ? Et c'est ça qui va être tout le débat du livre de Job, de quel Dieu parle-t-on ? Alors, pour parler de ce Dieu, je vais commencer, même si ce n'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, mais je préfère. Je vais commencer par développer un peu les arguments des amis de Job. Parce que ces pauvres amis de Job, ils ont quand même mauvaise presse. Ils ont mauvaise presse, ils ont le mauvais rôle. On se dit qu'ils sont énervants comme tout, ils répètent toujours la même chose, et puis finalement, ils ont tort. Bon, pas si simple, pas si simple. Il ne faut pas négliger leur façon de faire. Évidemment, ils viennent à côté de celui qui souffre, et ils viennent non pas lui faire la leçon, ils la lui feront, mais d'abord pas lui faire la leçon, ils viennent au mieux lui dire de prendre patience, l'assurer que ça va s'arranger, ce que justement le souffrant ne veut pas entendre. Enfin, on fait tous comme ça. Alors, ils présentent une défense, encore et encore répétée, de ce qu'on a appelé la théologie de la rétribution, qui consiste à dire très simplement, eh bien, les justes, ceux qui vivent en essayant d'être justes, seront un jour récompensés, et les injustes seront un jour punis et malheureux. C'est irritant, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, mais on aimerait bien que ça soit comme ça que ça se passe, après tout. Et c'est ce que Job voudrait. Il est furieux parce que cette théologie ne correspond à rien de réel, donc il va y voir une vaine consolation. Mais au fond, il est bien d'accord. Ça devrait se passer comme ça. Alors, sur quoi fonctionne cette théologie ? Eh bien, on part d'un axiome qui est tout à fait respectable là aussi. L'axiome, c'est le credo de la foi juive et aussi de la foi chrétienne. Dieu est juste. Et si Dieu est juste, eh bien, un jour, il punira les méchants et un jour, il sauvera ceux qui sont fidèles. Voilà, c'est un élément basique, mais c'est aussi basique d'un peuple qui cherche les voies de la civilisation et du vivre ensemble. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce qui semble favoriser au mieux le vivre ensemble, c'est d'abord quand même une justice un peu rétributive qui punit les malfaisants, en tout cas les empêche de nuire, et qui encourage ou récompense les bienfaisants. Personne ne dira le contraire. Personne ne dira le contraire. On essaye quand même de se baser sur ce genre de choses quand on fait la justice tous les jours. Alors, les amis de Job défendent ça à fond en disant « Dieu fausserait-il le droit ? Le puissant fausserait-il la justice ? Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. » Et ils se moquent un peu de Job. « Tu as instruit beaucoup de gens, tu as encouragé des faibles, tu as relevé celui qui trébuchait, mais maintenant qu'il s'agit de toi, tu n'es plus d'accord. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu n'es plus d'accord. » Et pourtant, ta piété n'est-elle pas ton assurance ? L'intégrité de tes voies devrait te donner à espérer. Et voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est que si on croit que Dieu est juste, il faut le croire jusqu'au bout et donc accepter de traverser cette souffrance. Et si elle ne vient pas tout de suite, les amis le savent, si finalement la récompense ou le retour au bonheur ne vient pas tout de suite, eh bien, c'est qu'il viendra un peu plus tard. Le triomphe des méchants est court, il répète ça à l'envi, et la joie de l'impie est momentanée, au contraire, un jour Dieu remplira ta bouche de rire, etc. etc. Bon. Les amis de Job savent bien que cette réalité contredit ce qu'ils disent, que la réalité contredit ce qu'ils disent, mais ils remettent toujours à plus tard. Et c'est au fond une espérance qui est fondamentale dans la foi juive. La justice va arriver un jour. Alors, nous, on aurait tendance à dire, et là, je vais essayer de dire non tout de suite, nous, on aurait tendance à dire, eh bien, il faut chercher, finalement, chez Job, l'idée que la récompense viendra, ou le salut viendra après la mort, repoussé dans une autre vie, un après, la mise en œuvre de la justice de Dieu. Il n'est pas question de ça dans le livre de Job, pas plus que dans les livres des prophètes, ni dans les livres de sagesse, les psaumes et les proverbes. La foi juive ancienne, bien avant les pharisiens, n'a pas du tout, l'idée d'une vie après la mort et n'a pas du tout reporté dans un post-mortem ou d'un au-delà quelconque le moment de la punition et de la récompense. Il s'agit d'attendre pour ce monde-ci. Voilà. Et on veut la justice de Dieu maintenant. Moi, je dirais même que cette idée d'une rétribution après la mort, là, je m'avance peut-être un peu, mais je crois qu'il faut quand même aussi réfléchir à cela. Job ne s'en satisferait pas. Quelque part, sa plainte, sa façon de refuser toutes les consolations, exténue, empêche la proposition d'une réparation après la mort. D'une certaine façon, pour moi, Job va anticiper ce que dira Dostoïevski avec Ivan Karamazov, aucune compensation après la mort ne saurait justifier les souffrances présentes de l'innocent. Ça, Job le tient, et on peut le tenir aussi. Alors cet axiome, Dieu est juste, nous pouvons le partager, mais il a quand même des conséquences désastreuses. Il a des conséquences désastreuses quand on se met justement à dévider la bobine, c'est-à-dire à dire si Dieu est juste et qu'il punit celui qui est méchant, en contrepartie, il n'y a qu'à dire que celui qui est puni est donc méchant. Celui qui est dans le malheur, c'est qu'il est puni, c'est donc qu'il est méchant, c'est donc qu'il a péché. Vous voyez comment on remonte le cours. Voilà. Et ça, les amis de Job vont commencer à le dire et à le répéter sans arrêt, en invitant Job à quoi ? Eh bien, à se repentir. Si tu t'éloignes le mal de ta main, si tu ne laisses pas l'injustice demeurer sous tes tentes, alors ta vie se lèvera plus brillante que le midi. C'est simple comme bonjour. Que Job confesse sa faute et il sera restauré dans son bonheur ancien, il sera sauvé. Voilà. Ça, c'est assez simple. On voit bien qu'il y a un dérapage. On voit bien qu'il y a un dérapage, mais il est tellement fréquent, ce dérapage de la théologie de la rétribution, tellement fréquent dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, évidemment, et au fond, peut-être dans la, je dirais, dans l'âme humaine en général, avec les mots qui échappent, et qu'est-ce que j'ai fait ? Alors nous, on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais bon ou pas bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, t'as rien fait. Voilà. N'empêche que les mots sont là. Il y a la suspicion portée sur un certain nombre de maladies. Il n'y a pas si longtemps que ça, la suspicion portée sur les séropositifs, les victimes du sida, etc., etc. Inversement, il y a combien aujourd'hui de groupes évangéliques, j'ai rien contre les évangéliques, mais enfin quand même, qui insistent sur le fait que la réussite matérielle, c'est le signe de la bénédiction de Dieu. Eh bien oui, c'est que vous avez bien agi, puisque Dieu vous bénit. Voilà. Après, il faut savoir comment vous avez obtenu la réussite matérielle, mais ça, c'est un autre problème. Bon. Alors, on sait que Jésus se dresse contre cette idée qui est incrustée dans les mentalités. On peut citer plusieurs textes. Celui qui vient à l'esprit tout de suite, c'est le dialogue avec l'aveugle né au chapitre 9 de Jean. Qui a péché lui ou ses parents pour qu'il soit aveugle comme cela ? Ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Vous allez me dire, ça c'est encore paradoxal, c'est autre chose. Mais enfin, ni lui, ni ses parents. Et Luc au chapitre 13, ces Galiléens sur lesquels une tour s'est effondrée, ils n'étaient pas plus pécheurs que vous. C'est pas une punition. C'est un malheur, c'est tout. Voilà, ça c'est refusé avec force. Eh bien, Job, avant Jésus, le refuse avec force aussi. Il sait qu'il est innocent et ne comprend pas pourquoi il serait puni comme un injuste. Ceci dit, en se proclamant ainsi innocent et en exigeant, au fond, de ne plus subir ce qu'il subit, Job se fait complice de l'idée de rétribution. Il est dans la rétribution, lui aussi, sans arrêt. Puisqu'au fond, qu'est-ce qu'il demande ? Eh bien, une juste récompense pour sa vie juste. Donc voilà, il dit le contraire de ses amis, mais au fond, de quoi se plaint-il ? De ce que la justice rétributive ne soit pas effectivement visible dans ce monde et ne lui soit pas appliquée. Donc ouais, Job n'est pas si clair que ça, malgré tout. Et ça, il faudra aussi l'entendre sans arrêt. Alors les amis, et là Job n'est pas contre, d'ailleurs c'est la morale du conte, les amis sont quand même souvent subtils, ils avancent. Après tout, le malheur fait peut-être aussi partie de la pédagogie divine, l'idée de l'épreuve, et c'est l'idée du conte. Est-ce que je peux mettre Job à l'épreuve ? On va bien voir, dit Satan, on va bien voir quand il va souffrir, il va changer de chanson Job, voilà. Donc, le malheur et la souffrance, après tout, ne serait-il pas une épreuve pour que nous fait subir Dieu pour nous élever ? En faisant souffrir, dit Eliphaz, Dieu répare, lui dont les mains, en brisant, guérissent. En tout cas, la tradition, elle a vu dans Job une figure du serviteur souffrant. Ce serviteur qui, au fond, va jusqu'à la mort, mais que Dieu relèvera parce que. Et Job aussi a reçu dans la tradition souvent des traits messianiques. Job annonçant au fond le Christ, ça c'est peut-être pas faux. Voilà, il y a cet aspect-là qu'il faut tenir en compte dans ce que disent les amis de Job, il faut l'entendre. qu'il faut entendre aussi dans ce qu'ils disent et qui revient alors énormément, c'est cette transcendance de Dieu et par rapport à cette grandeur de Dieu, au fond, la petitesse, la fragilité, la béance infinie qu'il y a entre Dieu et l'homme. Finitude de l'être humain, nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Surtout cette incapacité pour l'homme de comprendre, de savoir, de connaître, ce non-accès à la sagesse divine. Nos jours sur notre terre ne sont qu'une ombre, etc., etc. Au fond, et là je reviens à ce que je disais au début, à côté du nom générique de Dieu, dont les amis de Job et Job qu'ils utilisent sans arrêt, El Eloi, il y a un nom de Dieu qui revient aussi très fréquemment dans le livre de Job, et c'est Shaddai. Au moins dans ces dialogues. Et Shaddai, le grec, le traduira au Pantocrator, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Le nom de Dieu, au fond, le seul véritable nom, c'est le Tout-Puissant. Et les amis de Job vont y revenir sans arrêt. Sans arrêt. C'est à lui qu'appartiennent la domination et la frayeur. Il fait la paix dans les hauteurs. Y a-t-il une limite à sa puissance, au nombre de ses troupes, etc. Ça sera toute l'argumentation d'Eliou. Il est tout puissant, serait-il méchant, serait-il perfide? Ça n'est pas possible. Alors, ils vont encore un peu plus loin, les amis. Ils n'ont pas tort. Ils finissent par dire, mais au fond, devant la grandeur, l'infinie grandeur de Dieu, nul ne peut se prétendre juste. Job se prétend juste, il a tort. Qu'est-ce que donc que l'homme pour jouer au pur? Et là, ils ont des arguments. Même à ses saints, Dieu ne se fie pas. Les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Alors toi, penses-tu? La lune elle-même n'est pas brillante. Les étoiles ne sont pas lumineuses à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, l'être humain qui n'est qu'un vermisseau. Alors, cette idée du fait qu'aucun homme n'est juste devant Dieu sera reprise par Paul. Dans la lettre aux Romains, c'est même ça le fond de son argumentation. Mais l'argumentation de Paul consistera à dire... C'est parce que nul n'est juste et que tous sont perdus, au fond, que tous vont pouvoir être reconnus justes, retournés par le Christ qui, au fond, les prend tous en charge. Mais on voit bien que là, la ligne qui vient du livre de Job va être reprise et réutilisée. Les amis de Job ne vont pas si loin. Eux, ils concluent, mais alors, si nul n'est pur devant Dieu, ce Job... qui se prétend sans arrêt innocent, il fait preuve d'un orgueil sans borne. Eh bien, le voilà son péché. On a trouvé. Voilà, ils ont trouvé. Voilà pourquoi il est puni. Alors, vous voyez qu'on tourne en rond là aussi. Alors là, moi, je me dis, il faut réfléchir. Et on essaye de réfléchir, ce n'est pas toujours simple. Est-ce qu'il faut condamner, sans plus, cette théologie de la rétribution et la position des amis de Job? Je l'ai dit tout à l'heure, la justice rétributive permet quand même le vivre ensemble dans nos sociétés. Souvent, nous luttons pour elle, pour au fond que les méchants soient mis à l'écart et que les justes puissent vivre tranquillement. Et si Job la met en cause, c'est bien parce qu'elle n'est pas vérifiée. Bon. En même temps, il y a une faille dans le discours des amis de Job, et Job, qui est très malin, la trouve la faille. Et il faudra regarder où sont les failles. La faille, elle est quand même massivement celle-là. Ils prétendent avoir un savoir sur Dieu. Job ne sait pas, sauf qu'il est innocent, mais de Dieu, il ne sait rien. Tandis qu'eux, ils savent. Et à un moment, Job dit, alors c'est plus générique, c'est pas eux, c'est l'homme qui parle comme vous, capte Dieu dans ses mains. Voilà, ils veulent prendre Dieu dans leurs mains. Et là, ils ont tort. Au fond, ils n'ont qu'un but. Les amis de Job, c'est justifier Dieu. Essayer de montrer que Dieu peut être à la fois tout-puissant, juste, bon, et au fond, qu'on peut comprendre ça. Ce que, au fond, la tradition philosophique va dérouler jusque très très tard, dans toute l'histoire occidentale au moins, est ce qu'on va appeler la théodicée, les essais pour justifier Dieu. Alors, la raison humaine, elle s'efforce de justifier Dieu. Puis, à un moment donné, elle n'arrive pas à tenir que Dieu, à la fois, soit tout-puissant, bon et compréhensible. Et elle dit, allez, hop, on se passe de Dieu. Dieu ne peut pas exister puisqu'il ne peut pas avoir toutes ces qualités qui sont les qualités divines par excellence à la fois. La question qui se pose, là, alors, à nous, dans ce livre de Job, c'est, mais au fond, est-ce que en faisant cela, on ne fait pas entrer Job, le Dieu, dans les étroites limites de nos représentations et de nos catégories humaines? De quelle justice parlons-nous quand nous voulons Dieu juste? De quelle bonté? De quelle toute-puissance parlons-nous? Et de quelle compréhension, de quel acte de raison et de compréhension parlons-nous quand nous voulons un Dieu compréhensible? Et là, tout ça va être mis en cause, au fond, par Job. Ça, il faut en savoir gré à Job, et c'est ça l'intérêt de cette traversée du livre de Job, mais de se dire à un moment donné, mais attendez, alors qu'est-ce qu'on exige là de Dieu? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de lui exiger nos petites catégories, nos petites représentations qui, au fond, ne valent peut-être pas grand-chose? Tandis que Job, lui, il continue à faire le procès d'un Dieu qu'il affirme à la fois tout-puissant, juste et compréhensible, puisqu'il en exige une réponse. Voilà. Donc, après avoir dit qu'au fond, il fallait être attentif aux arguments des amis de Job, je vais maintenant essayer de montrer comment, au fond, Job avance ou n'avance pas, ou tourne en rond, mais enfin, c'est quand même une petite spirale. Il y a des choses qui finissent par se passer. J'ai intitulé ça « De la plainte au procès, un long chemin pour sortir de la rétribution ». Il va falloir arriver à en sortir, ouais, ça c'est sûr. À tout ce que disent ses amis, Job répond en constatant qu'au fond, ça n'est pas possible, et en se plaignant. Il d'abord va avoir, c'est le chapitre 3, vous le travaillerez, une longue plainte, une plainte nécessaire, une plainte vitale. Il faut que Job se plaigne, il faut que le souffrant se plaigne, écrit. Parce que se plaindre, c'est s'adresser à quelqu'un, c'est supposer, c'est exiger, et c'est finalement pour Job la preuve que quelqu'un écoute. La plainte doit être prononcée parce qu'il faut que quelqu'un écoute. Alors, à partir de son propre malheur inexplicable, son malheur innocent, Job va prendre en charge toute la souffrance que connaît l'être humain et s'en plaindre et l'adresser contre Dieu. Et effectivement, à sa naissance, le petit homme, il est innocent. Et puis, il débarque dans un monde où il va se heurter à un mal qui le précède. Les structures du mal sont là et voilà, on l'envoie vivre là-dedans. La Bible dit très bien, lorsque Adam et Ève apparaissent au jardin d'Éden, l'arbre du bien ou du mal et du bonheur et du malheur est déjà là et le serpent doit se balader quand même déjà quelque part dans le jardin. On débarque dans un monde innocent, dans un monde où le mal est là, et de ce mal qui l'accable immédiatement, Job va se plaindre et se lamenter en finalement regrettant d'être né. Vous savez que le chapitre 3 commence par une plainte terrible, « Périsse le jour où j'allais être enfanté et la nuit qui a dit « un homme a été conçu ». Terrible plainte. Alors cette plainte, au fond, sa force, c'est qu'elle va devenir universelle, le cas de Job n'étant qu'un exemple parmi d'autres. J'ai mis là le titre d'un livre qui, évidemment, comme tous les bons livres, est épuisé, le livre de Philippe Nemo, que vous pouvez trouver en bibliothèque, « Le mal, à propos de Job, le mal en excès ». Ce que Job va montrer, c'est que dans cette humanité qu'il représente, le mal est toujours excessif. Mais au fond, il est excessif parce qu'il va concentrer tous les maux de la terre. Mais de toute façon, dès qu'il est là, le mal est de trop. Voilà. Le mal est en excès, le mal est de trop, le mal ne devrait pas être là. Alors, du coup, Job concentre sur lui toutes les souffrances possibles. L'être humain né de la femme, sa vie est courte, saturée d'agitation, il pousse comme une fleur. Comme une fleur, il est coupé. Il se couche, il ne se relèvera pas, il ne sortira pas de son sommeil. Tout y passe. La fragilité de la vie, le fait que l'homme est voué à la mort, les souffrances physiques et psychologiques, la solitude, l'incompréhension et finalement le silence de Dieu. Et évidemment, la description devient terrifiante. Ma chair s'est couverte de croûtes terreuses, ma peau se crevasse et suppure. Voilà, il se lève le matin, il se demande quand il se couche, il se demande quand est-ce que je me lèverai. Et puis cette solitude terrible. Je suis abandonnée de mes proches, oubliée de mes connaissances. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis venue fétide pour mes propres enfants. Et cette impression, qui est bien l'impression de celui qui souffre, d'être agressé sans cesse et par tous ceux qui s'adressent à lui. Cette impression que tout l'agresse. Et que... Alors il dit à ses amis, « Faites-moi grâce, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme lui ? N'êtes-vous pas rassasiés de ma chair ?» Et puis même l'évocation du bonheur passé, dans le grand monologue final, il y a l'évocation du bonheur passé, rend plus aiguë la souffrance actuelle de Job. Si bien qu'il y a des moments où on voit Job frôler et avoir cette tentation du désespoir. Ce n'est pas souvent dans le livre, même si la violence est grande, en fait, la violence, ce n'est pas le désespoir. Tandis qu'il y a des moments où on a l'impression que Job risque de se taire, et ça serait ça le désespoir, que la plainte s'arrête. Alors, par exemple, au chapitre 6, « Quelle est donc ma force pour que j'espère ? Quelle sera ma fin pour que je prolonge ma vie ? Ne suis-je pas sans recours, sans secours, sans aucune ressource ?» Au chapitre 9, « S'il existait entre nous un arbitre pour poser la main sur nous deux, il écarterait de moi la cravache de Dieu. Je parlerai sans crainte, mais puisqu'il n'y a pas de réponse, je suis seul avec moi-même. » Et au chapitre 17, je vous l'ai mis, « Qu'ai-je à espérer ? Le Sheol est ma demeure. Des ténèbres, j'ai fait mon lit. Je crie à la fosse, tu es mon père. À la vermine, tu es ma mère. Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espoir, qu'il entrevoie. Au fin fond du Sheol, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. » Là, il y a vraiment un moment où on a l'impression que Job va lâcher. Eh bien, Job ne lâche pas. Eh bien, Job ne lâche pas. Et la plainte rebondit. Et elle rebondit même en procès. Il persévère. Et s'il peut persévérer, c'est qu'il s'adresse à un tu qu'il convoque sans arrêt. Je l'ai dit. La plainte, elle exige une réponse. Elle exige quelqu'un qui soit en face de lui. « Je hurle vers toi et tu ne réponds pas. » Tant pis s'il ne répond pas. Job continue à hurler. « Je me tiens devant toi, ton regard me transperce. Tu t'es changé en bourreau pour moi. » Mais Job, malgré ça, continue. Et sa plainte devient procès devant ses amis ou contre ses amis, et procès contre Dieu. Voilà. Si chacun, comme chacun de nous... Si Job se plaint, c'est qu'il veut être entendu, et si on ne l'entend pas, eh bien il attaque. Et il a raison d'attaquer. La première chose qu'il va faire, c'est de dénoncer les affirmations de ses amis en termes violents. Il veut en découdre avec ses plâtriers de mensonges, guérisseurs du néant, enfin il n'a pas de mots trop forts pour ses amis, parce que, dit-il, ils ont tort, ils mentent, etc. Bon, là aussi, il exagère, le Job, parce qu'on pourrait lui faire remarquer que ses amis sont venus de loin et que le conte nous dit qu'ils ont commencé par s'asseoir à côté de lui et pendant 7 jours se taire en respectant sa douleur. 7 jours, c'est pas mal. Après, ils se sont mis à parler, mais enfin, ils sont là et ils parlent. Ils sont là et ils parlent, ce qui n'est pas si mal. Mais ça, Job ne veut pas en tenir compte. Il ne veut pas en tenir compte parce que ce qu'il dit est faux. Il refuse de lâcher l'espérance d'une juste rétribution. Et évidemment, sa souffrance va se retourner contre l'invisible persécuteur, puisque au fond, les amis ne sont pas grand-chose. Il se retourne contre Dieu. Et contre Dieu, Job se débat. « Laisse-moi, je m'en moque. Qu'est-ce qu'un mortel, pour en faire si grand cas, pour te fixer ton attention sur lui, l'inspecter à chaque matin, le tester à tout moment. » On a un écho dans les psaumes, hein, le psaume 139, qui peut être diversement interprété, mais qui dit bien à Dieu, « Tu me scrutes et tu sais. » Et le psalmiste dit qu'il s'en va, au fond, il gravit les cieux, Dieu est là, il descend aux enfers, le voici, il prend les ailes de l'aurore et se pose au-delà des mers, et là, ta main me saisit. Voilà, un Dieu persécuteur. Inversement, un autre psaume, le psaume 8, admire la grandeur et la bonté infinie de Dieu, qui au fond, qu'est-ce qu'un mortel pour en faire si grand cas, dit Job, mais le psalmiste répond, eh oui, qu'est-ce qu'un mortel pour que tu t'occupes de lui, un fils d'homme pour que tu te préoccupes à ce point de lui. Il y a aussi quelque chose de merveilleux, donc quelque chose au fond d'ambigu dans cette présence de Dieu. Est-il là comme persécuteur ? Est-il là au contraire ? Comme créateur et soutien, la question va se poser. Au fond, Job refuse de se taire, et refusant de se taire, il refuse de désespérer. Et c'est ça qui est important. Il refuse de désespérer, il se dresse devant Dieu, il se dresse plutôt contre Dieu, mais c'est pas sûr. On se demande si, au fond, il ne se dresse pas contre une certaine représentation de Dieu. Il répond à ses amis qui lui disent « Mais regarde autour de toi, oui, oui, tout ça j'ai vu, je sais, moi aussi comme vous. Mais moi, c'est à Shaddai que je vais parler, contre Dieu que je vais me défendre. » Et là, il se met à dénoncer avec force l'hypocrisie de ses amis. Au nom de ce que je disais tout à l'heure, il y a une faille dans leur discours. Ils défendent Dieu avec de faux arguments. Ils défendent Dieu, peut-être qu'ils n'ont pas tort, mais ils le défendent avec de faux arguments. Au fond, ils sont en train de construire un faux Dieu. Et faisant cela, eh bien, ils blasphèment. Taisez-vous, laissez-moi, c'est moi qui vais parler. Voilà. Job, lui, exige qu'on dise vrai, exige qu'on soit lucide, même si, dit-il, ça va nous mettre dans une grande difficulté. C'est moi qui vais parler, dit-il, quoi qu'il puisse m'arriver. Ainsi, je saisirai ma chair entre mes dents et je risquerai ma vie. Certes, il me tuera, qui c'est ce « il » Il me tuera, je n'ai pas d'espoir. Pourtant, je défendrai ma conduite devant lui. Et cela même sera mon salut, car nul hypocrite n'accède en sa présence. Voilà. Se défendre devant lui, rester debout, c'est au fond ça qui va faire le salut de Job. Job veut regarder la réalité avec lucidité, la rétribution n'existe pas, et il demande des explications à Dieu. Et même quand il brosse le tableau d'un Dieu méchant qui s'acharne contre lui, un bourreau, un Dieu pervers, un Dieu sadique, il dépasse lui-même ce tableau pour le refuser en disant « mais tu dois t'en expliquer ». Vous voyez ce que je veux dire ? Il bâtit une image de Dieu et puis il la détruit par ce discours qui va toujours plus avant, exiger de Dieu des comptes, mais enfin que Dieu s'exige, s'explique. La force de la plainte de Job, c'est bien d'exiger une réponse, d'exiger un répondant, au fond de forcer le possible, ou de forcer même, il faudrait peut-être écrire, de forcer l'impossible. Alors il y a des endroits très ambigus dans le livre de Job où on voit qu'il est en train de forcer quelque chose, d'essayer à tout prix d'ouvrir une porte, et je dirais presque d'ouvrir une faille dans Dieu pour jouer Dieu contre Dieu. Je m'explique. Au chapitre 9, il a dit, on l'a déjà lu, « S'il existait entre nous un arbitre pour poser la main sur nous deux. » Et puis ensuite, il conclut, « Non, non, pas du tout, il n'y en a pas. » Mais il va continuer. Au chapitre 16, il a une autre expression, « C'est plus un arbitre, c'est un témoin. »« Dès maintenant, j'ai un témoin dans le ciel, et dit-il, un répondant dans les hauteurs. » Qui c'est ce témoin, ce répondant ? Il dit ça à Dieu. Où il est le troisième homme ? Le tiers. Où est-ce qu'on est en train de séparer Dieu en deux ? Bon. Alors, enfin, on a exactement ça dans le chapitre 19. Hein, et là, on voit qu'en fait, c'est bien le même Dieu pris sous un autre angle. Je sais, moi, que mon Goël est vivant. Qu'est-ce que c'est que ce Goël dans la tradition juive ? Ancienne, israélite plutôt ancienne, il y a cette institution dans les clans, dans les familles, du Goël, qui est l'homme responsable de ceux de la famille qui seraient tombés dans la misère, le malheur, qui auraient été vendus comme esclaves ou qui n'auraient plus aucune ressource. Et le Goël a comme rôle social de racheter et de prendre soin de ce membre de la famille, plus ou moins lointain, mais qui est devenu esclave, qui est tombé dans le malheur, et de le restaurer dans ses droits et dans une vie plus heureuse. Voilà. Ça, c'est le rôle du Goël, le rôle social. Ce que Job demande, ce que Job sait, c'est qu'il a un Goël. Je sais, moi, que mon Goël est vivant. La phrase, ensuite, est difficile à traduire. On essaye des traductions. Le dernier sur la poussière, alors on ne sait pas si c'est lui ou le Goël, il se lèvera. Et si on arrache ma peau, d'autres traduisent si de la peau de ma chair, bon, de la peau de ma chair, ou si on arrache ma peau, même après cela, je verrai Eloah. Donc là, je verrai Dieu. Moi, je le verrai, mes yeux le verront, il ne sera pas étranger. Bon, là aussi, la traduction est difficile. Et il conclut, mon cœur, le mot en hébreu dit mérin, c'est-à-dire finalement la force de vie, hein, c'est là où la force de fécondité de l'homme et sa vie dans l'anthropologie ancienne, mon cœur, mes reins en brûlent au fond de moi. Il y a quelque chose au fond de Job qui affirme la vie et qui affirme cette présence de celui qui doit lui répondre contre toutes les apparences de silence, de malheur, toutes les apparences d'absence. Au fond, ce qui tient Job, c'est bien la foi nue, la foi au-delà de toute incompréhension, au-delà de toute impossibilité de justifier Dieu. Il a la certitude qu'il verra Dieu, c'est la foi de son cœur brûlant, mais entendez par cœur cette force vitale en lui. Voilà. Et Job, c'est la foi de Job, ne renonce pas à comprendre, continue à requérir et va jusqu'au bout de la parole. Et c'est pour ça qu'il faut aussi rester dans Job, parce que cette parole qui se relance sans arrêt, qui nous lasse, c'est ça qui va au fond sauver Job. Continuer sans fin à pousser le cri du souffrant et à exiger une réponse. Alors, la question maintenant, c'est au fond, Job, le livre de Job, et Job nous offre-t-il une autre image de Dieu ? Une image qui puisse répondre à la question, comment Dieu peut-il être à la fois juste ou bon, puissant et acceptable pour la raison humaine ? Et au fond, ce qu'on vit avec Job, c'est une lente déconstruction de nos représentations de Dieu. Représentation de Dieu. Job a raison de refuser une culpabilité qui expliquerait ses malheurs. Ce n'est pas parce qu'il est coupable qu'il est malheureux, ça n'a rien à voir. Donc la rétribution ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, puisque la rétribution ne fonctionne pas, nous devons renoncer à cette idée d'un Dieu juste. Mais cette idée d'un Dieu juste, c'est notre idée humaine de la justice. Donc nous devons renoncer à notre idée trop humaine de la justice. Dieu n'est pas juste selon nos critères. Voilà. Dieu ne juge pas selon nos critères. Et probablement aussi, ce qui sombre avec Job, c'est l'idée d'un Dieu bon ou puissant selon nos critères. Dieu n'est pas bon ou puissant selon nos critères. Il y a bien plus, nous dit le livre de Job, en Dieu, il y a bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Voilà. Dieu est créateur et sauveur bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au fond, dans le procès qu'il a fait à Dieu, Job a exigé, on l'a vu, un témoin, un garant, un répondant, un défenseur, contre Dieu, ou plutôt contre la fausse image que les amis, et qu'au fond Job lui-même, se faisait de Dieu. Je dirais, pour en finir un peu avec ça, et vous arrêter de vous lasser, que Job invoque un Dieu qui lui réponde au double sens du terme. D'abord, un Dieu qui prenne au sérieux le procès qu'il lui fait et lui répond dans ce sens que, voilà, il dise quelque chose. Dieu répond dans le livre de Job. Hein. Dieu répond longuement, du chapitre 38 au chapitre 41, il y a bien une réponse de Dieu. Il répond en déployant la splendeur, la grandeur, le caractère inouï de sa création. Ça fait un poème magnifique. Mais une fois que Dieu a déployé la force des monstres marins, Léviathan ou Béhémoth, l'hippopotame ou le roc, on se dit, c'est bien gentil tout ça, mais j'en ai rien à faire. C'est bien gentil tout ça, mais dans cette création magnifique, il y a des ratés. Et moi, je voudrais qu'on m'explique les ratés. Donc, au fond, la réponse de Dieu a quelque chose de fascinant. Et il faut l'accepter, la grandeur de la création dit quelque chose de Dieu au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. En même temps, il y a une petite déception, parce que ça ne nous dit rien du malheur innocent. On peut penser que l'auteur n'a peut-être pas d'autres réponses à proposer à la plainte de Job, et que c'est déjà pas mal de produire à la barre cette figure de Dieu, cette splendeur de la création, et de montrer à Job qu'il faut reconnaître l'absolue liberté de Dieu dans sa puissance créatrice qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, nous n'avons pas tout vu ni tout imaginé. Voilà. Il y a déjà ça. En même temps, le texte suggère autre chose. Il faut que Dieu soit le répondant de Job dans un autre sens. Le répondant de Job, au fond, dans ce procès, ce goël, hein, qu'il faut que Dieu se fasse lui-même. C'est ça que Job exige. Que Dieu se fasse lui-même défenseur, garant, témoin, répondant, responsable de sa création. C'est bien beau cette création, mais alors que Dieu en soit responsable et qu'il soit responsable de Job et de ses malheurs. Alors, ce qu'on découvre alors, c'est que même si on est déçu, et comment ne le saurait-on pas ? C'est une parole humaine, finalement, qui a écrit le livre de Job et qui en sait pas plus que nous sur le mystère du mal. Donc, on ne peut qu'être déçu par la réponse qu'un humain fait tenir à Dieu, parce que c'est quand même une réponse humaine. Même si on est déçu, ce qu'il faut bien voir, c'est que malgré tout, comme dans le psaume 22, Dieu a répondu. Et ça, c'est pas rien. Dieu a répondu. Et que désormais, la situation se renverse. Et donc, on ne tourne pas toujours en rond dans le livre de Job. À un moment donné, la situation se renverse et c'est Dieu qui interpelle Job. Et au fond, c'est ça que Job cherchait. Ne plus être celui qui fait le procès, mais finalement, après tout, être l'accusé. C'est beaucoup plus confortable. Et en tout cas, il est celui à qui Dieu va parler. Un échange est possible. C'est la grande découverte de Job. Du coup, il y a par deux fois Dieu qui, après avoir déployé sa puissance, interpelle Job, et il y a une double réponse de Job. Première réponse de Job, au chapitre 40, verset 5, alors que Dieu lui a dit « Réponds-moi, hein, c'est moi qui vais parler maintenant et tu vas répondre ». La première réponse de Job, c'est qu'au fond, c'est au fond d'opposer à la gloire de Dieu. Vous savez que la gloire en hébreu, c'est kavod, c'est un mot qui dit le poids de Dieu. Poids de Dieu. Eh bien, Job répond, je ne fais pas le poids, je suis léger. Kalil, c'est léger, c'est l'opposé du kavod. Voilà. Devant Dieu, je suis léger. Je ne peux pas répondre parce que la gloire de Dieu est trop infinie, trop lourde pour ma légèreté. Et puis, la deuxième fois, en 42, 5, Job répond plus longuement en disant, au fond, oui, je me tais parce que j'ai abordé sans le savoir des choses merveilleuses, des choses trop grandes pour moi. Puis il continue, maintenant mes yeux t'ont vu, aussi je renonce et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. Il y a une autre traduction qui dit, moi qui suis poussière et qui suis cendre. Bon, la traduction reste ouverte. La traduction reste ouverte. Mais ce qui est important ici, c'est de se rappeler avec ces « mes yeux t'ont vu », de revenir en arrière au chapitre 19, où il y avait surabondance de cette expression dans l'avenir, « je verrai ». L'espérance de Job, c'était de voir, avec au moins quatre fois en deux lignes, le mot « voir ». On l'a vu tout à l'heure, « c'est bien dans ma chair que je verrai Dieu, c'est moi qui le verrai, et ce ne sera pas un étranger. Mes yeux le verront, mon cœur en brûle au fond de moi. » Et ici, je l'ai vu. Quelque chose s'est passé. Alors nous, on se dit, mais enfin, qu'est-ce que Job a vu ? Il faudrait qu'il le dise. Qu'est-ce qu'il a vu ? Quelle expérience bouleversante, transformante a-t-il fait ? Et attention, une expérience qui, au point où on en est, et où Job se tait, n'a pas changé, et probablement ne changera pas, son état physique et ses souffrances. Ça, c'est le conte qui va le raconter après. Job va retrouver la santé, on va lui rendre 50 fils, 50 filles, des richesses. Bon, on s'en moque, ça c'est la rétribution. Pour le moment, Job se tait, il a vu Dieu, il a fait l'expérience, ça ne change pas grand-chose. Mais pour lui, ça change tout. Et nous ne saurons pas ce que Job a vu, sinon que, en étant allé jusqu'au bout des ressources de la parole, en étant allé jusqu'au bout des ressources du cri, au bout de ses forces et de lui-même, il a rencontré Dieu, un Dieu qui lui a répondu et un Dieu qui l'a installé, lui, Job, en vis-à-vis, puisqu'il lui a demandé de répondre. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, un Dieu qui a instauré un dialogue. Et finalement, Dieu donnera réponse, donnera raison à Job. Dans le conte, on a une phrase amusante de Dieu aux amis qui pourtant l'ont défendu tout le long. Vous n'avez pas su parler, vous êtes nul. Vous n'avez pas parlé de façon fondée de moi. C'est le radical de ce qui est solide, de ce qui est installé, fondé. Vous n'avez pas parlé de façon fondée de moi, comme l'a fait Job, mon serviteur. En allant jusqu'au bout de la vérité et de l'exigence, Job a parlé de Dieu de façon fondée. Au fond, la justesse, la justice de Job, c'est d'avoir maintenu jusqu'au bout un Dieu tu, responsable, Goël, ou on dira en langage du Nouveau Testament un Dieu paraclet, le Dieu défenseur. On voit bien qu'il y a la ligne là qui va vers un Dieu qui vient nous défendre. D'avoir eu foi en lui malgré tout. C'est ça la grandeur de Job, hein, c'est d'avoir gardé cette révolte jusqu'au bout, même devant la grandeur de la création, au fond, ce qui fait la grandeur, la dignité de l'homme, eh bien, c'est cette exigence que Dieu lui répond. Alors, quelques, non pas conclusions, mais quelques pistes. Qu'est-ce que le livre de Job m'a appris ? D'abord, que la révolte devant le mal reste notre dignité et qu'il ne faut jamais la céder, celle-là. Devant le mal, devant la souffrance, non, non. Notre dignité, c'est de dire non et voilà, de se battre jusqu'au bout et d'exiger que ça ne devrait pas être comme ça. Deuxièmement, ce que le livre de Job m'a appris, c'est l'inadéquation de toute idée de rétribution et donc l'insatisfaction l'idée que nous nous faisons de la justice. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on cherche, et on a raison, autre chose, non plus une justice rétributive, mais on parle de justice restauratrice, hein, qui rétablisse le méchant dans la réparation, qui le réconcilie, qui le remette dans sa dignité. Bon, on essaye, on est loin du compte, mais on essaye. En tout cas, il faut être insatisfait toujours par rapport à notre façon de rendre la justice, même si on est obligé de le faire. Et puis, ce que le livre de Job nous apprend, je crois, alors j'ai emprunté le mot « intranquillité » à un beau livre de la pasteur Marion Collard-Muller, c'est dans l'autre sens, je ne sais jamais. Et je m'excuse envers elle. L'intranquillité quant à nos représentations de Dieu. Saint Augustin disait « si tu l'as trouvé, c'est pas Dieu. » C'est pas Dieu. Intranquillité, Dieu n'est jamais le Dieu tel que l'idée que nous nous faisons de Dieu n'est jamais exactement la bonne. Nous avons raison d'exiger, et la foi postule, un Dieu proche, un Dieu défenseur. Et il faut tout à la fois dire que ça reste un Dieu mystérieux, devant lequel on ne peut que s'incliner, tout en continuant à exiger qu'il soit proche, qu'il soit défenseur. Nous avons raison de dire que Dieu ne nous est pas indifférent et que Dieu nous appelle à dialoguer avec lui, même si ce que nous entendons souvent, c'est le silence et l'absence de Dieu. Mais cela reste. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vais écouter les questions. Et puis, vous avez déjà peut-être certains prix des livres. Alors, il n'y a pas beaucoup de livres sur Job parce que beaucoup des bons livres ont été épuisés. Vous avez un livre qui est une introduction claire, peut-être un peu simple, mais quand même où l'essentiel est là, le livre de Bertrand Pinson, le livre de Job. Vous avez des commentaires, alors, intéressant, même si c'est évidemment pas l'ensemble du livre, de certains passages du livre de Job dans la collection où le Nouveau Testament est commenté, l'Ancien Testament commenté par un spécialiste, Thomas Kruger. Alors c'est des petits passages, et puis il y a une dimension spirituelle importante. Job et la critique de Dieu, c'est le livre de Job lu à travers les âges. C'est toujours passionnant, les pères de l'Église, l'islam, Victor Hugo, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. On n'a plus d'intranquillité parce que c'est le Christ. Oui, mais devant Jésus en croix, on reste quand même avec une question, non ? Alors oui, vous avez à la fois vous avez raison. Et au fond, reste quand même la question, le problème du mal, c'est le Christ. Il est venu l'habiter, il n'est pas venu le réparer, on souffre toujours. Alors, pour la représentation de Dieu, oui. Oui, mais la figure du Christ n'est pas non plus une figure qui s'enferme. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Nouveau Testament lui-même vous répond. Il vous présente non pas un Jésus, mais quatre Jésus différents. Et donc, la figure elle-même du Christ, elle a une profondeur telle que vous n'aurez jamais fini de découvrir. Et donc, si, là aussi, il y a une certaine intranquillité quant à la figure même de Jésus, qui est quelqu'un qui interroge, et que les quatre évangélistes ont fini par dire de façon différente, complémentaire, parfois même contradictoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, je vous abandonne. Oui, Joseph ? Oui. Eh bien, voilà la question, la parole de Jésus sur la croix. Alors, il n'y a pas de réponse à ça. Sauf que, si vous lisez l'évangile de Luc, Jésus ne meurt pas en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais de façon apaisée, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » On peut lire Jésus comme la mort de Jésus comme Matthieu et Marc, on peut la lire comme Luc et Jean. Il y a une pleine humanité de Jésus qui dit à la fois qu'il y a un sentiment comme Job qui tire du côté du désespoir et de l'abandon. Et il y a aussi une certitude peut-être concomitante qui dit qu'il faut continuer à crier, même quand on est sur la croix et qu'on ne peut plus crier. Parce qu'on remet l'esprit entre les mains du Père. Vous voyez ce que je veux dire? Et en ce sens, voilà, la figure se complète et elle est d'une richesse qu'il faut toujours approfondir. Parce qu'au fond, c'est la figure de l'humanité qui se monte vers Dieu. Et qu'on n'a pas fini d'abandonner nos scories pour avancer vers Dieu. Ça répond un petit peu à ce que vous oui. Alors, je vous laisse. Bon, vous pouvez aller à la librairie et puis vous rejoignez vos animateurs ou les étudiants qui les représentent. Les vice-animateurs, on va dire, qui vont vous donner le travail pour la première rencontre, je pense, après les vacances, entrer dans le grand monologue de Job.